toi, Choupi, c'est l'heure du JT.
Il est pratiquement 19h, bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour passer ce week-end dans votre compagnie.
Putain, nous sommes pas, le...
Ils veulent avoir leurs examens en fin d'année, c'est mieux de les réviser. Parce qu'il n'y aura pas d'examen en chocolat.
Pension de retraite, pourquoi cette faible revalorisation
de la part du gouvernement ?
Toutes offres d'emploi pullulent sur le réseau de Pôle emploi.
Une question de santé publique et donc économique qui intéresse les entreprises.
La procédure fait intervenir un huissier qui vient notifier l'expulsion avant démolition.
Oui ou non, interdire le burkini,
ce maillot qui cette fois-ci, c'est sûr, je l'éteins là, je l'éteins la télé même. Même je l'éteins à tout jamais, tu vas voir ce qu'elle va voir, c'est qui ?
Oh, René ! Tous les vendredis, c'est pareil. Une télé explosée, hein ? On va écouter le canyon.
Bonsoir, vous êtes sur le Canu Info du vendredi. On est presque en direct, mais pas tout à fait. Ce soir, sur le Canu Info du vendredi, vous entendrez un entretien avec le collectif Hébergement en danger. Ensuite, un reportage sur le rassemblement de mardi contre la loi Sécurité Globale. Dans la rubrique nationale, on vous parlera de deux meurtres qui ont eu lieu à Cholet au nom d'un dieu catholique. Mais, selon les pouvoirs politiques et les journaux, ce n'est pas un attentat. Dans la rubrique migration, on vous parlera de comment, en pleine crise sanitaire, le gouvernement restreint les conditions d'accès aux soins des personnes étrangères. Et on vous lira une lettre de la communauté érythréenne de Calais. Et on finira avec un petit agenda. Bonne écoute!
Reportage sur le rassemblement qui a eu lieu à Lyon cette semaine.
Du Rouennais de la région qui s'appelle Stéphane Boulay.
En région lyonnaise, plus précisément à Pierre-Bénite. Une...
Pour savoir où est-ce qu'on en est, la lutte des instits à Voix-en-Velin.
Petit reportage sur la grève qu'on a vu à les
interjoints sur le rassemblement pour le droit à l'IVG. Et
la nouvelle de l'Opéra de Lyon.
Canu Info du vendredi. Rubrique locale.
Le Canu Info du vendredi continue son tour d'horizon de la question de l'hébergement à Lyon. Après avoir fait des entretiens à l'ECG le 30 octobre, vous avoir passé un reportage sur le squat de Sanssouci le 13 novembre, retour aujourd'hui avec Agathe sur le collectif Hébergement en danger.
Je suis travailleuse sociale et je fais partie du collectif Hébergement en danger.
Et est-ce que tu voudrais nous présenter ce collectif ? Quand est-ce qu'il est né ? Un peu à l'initiative de qui ?
Alors, il est né en 2019, quand on s'est rendu compte, parmi les travailleurs sociaux de l'urgence sociale, donc les personnes qui travaillent dans l'hébergement, les personnes qui travaillent au SAMU social, et voilà, tous les autres travailleurs sociaux qui gravitent sur cette question-là, quand on s'est rendu compte qu'il y avait un glissement dans la désignation des places d'hébergement. Donc, c'est un peu complexe, mais pour faire simple, on s'est rendu compte que les personnes qui étaient envoyées sur des places qui normalement étaient réservées aux personnes, quel que soit leur titre de séjour, étaient de plus en plus des personnes dites insérables, donc européennes ou travaillant ou en tout cas ayant les moyens de prétendre à un titre de séjour. Où il n'y avait rien d'officiel, c'était juste par des observations et des petites rumeurs qu'on s'est dit que là, il y avait un problème sur l'hébergement dit d'urgence. Donc privant les personnes sans droit ni titre et qui n'étaient pas en démarche, qui n'avaient pas de possibilité de régularisation, les privant de l'hébergement. Donc on s'est monté d'abord là-dessus, et après ça nous a permis donc de collectiviser les luttes de nous, travailleurs sociaux, qui avons besoin d'une soupape de militantisme au-delà de notre travail.
Est-ce que tu te souviens à peu près quand est-ce que c'était ?
C'était en début d'année 2019.
en début d'année 2019. Et depuis, du coup, comment vous avez utilisé cette soupape? Qu'est-ce qu'il a fait, le collectif Hébergement en danger?
Alors, au début, on a voulu lutter contre le changement de ces places d'hébergement d'urgence. Le fait est qu'on est là aujourd'hui et que les personnes orientées sur les appartements autrefois réservés aux personnes sans droit ni titre sont des personnes insérables. Donc ça, c'était la première lutte, voilà où on en est. Après, on s'est fédéré, on s'est posé la question de s'ouvrir à d'autres luttes. On s'est posé aussi la question des syndicats, dans le sens où on était des gens qui travaillons. Enfin, en tout cas, c'était par là qu'on avait créé le collectif. Et surtout, la création, le fait de se voir régulièrement, d'être souvent à jour de ce qui se passait, donc sur les hébergements plan froid, sur les squats, enfin en tout cas de fédérer tout ça, ça nous a permis d'être assez réactifs quand en octobre 2019, le préfet a annoncé une refonte de l'hébergement dans le Rhône avec la superbe idée de carrément là priver certaines personnes de l'hébergement d'urgence en faisant des critères pour rentrer dans les hébergements. Donc des critères, c'est-à-dire femme enceinte au troisième trimestre de la grossesse, enfant de moins de 1 an et personne ayant des maladies graves. Sachant que plutôt que de faire de l'hébergement pérenne, c'est-à-dire que la personne rentre en hébergement et elle y reste tant qu'elle n'a pas trouvé d'autres solutions, l'idée du préfet, c'était de faire de la mise à l'abri. Et donc, les personnes qui rentraient sur les critères que je viens de citer pourraient ressortir au moment où elles ne rentraient plus dans ces critères. Donc, par exemple, un enfant qui fêtait ses 1 an pouvait être remis à la rue, voilà, parce qu'il était devenu trop vieux pour mériter le logement. Forcément, on a réagi rapidement face à cette annonce. Et fort de notre petite année de rassemblement et de mise en place du collectif, on a pu lancer un appel à la grève le 28 novembre. Et surtout, on a pu faire plier le préfet. Et il a été retoqué par le ministre, par l'État. Et il a dû revenir sur cette idée complètement hors la loi, privant les personnes d'un toit. Je pense que ce qui a fait la différence entre la mobilisation qu'on avait eue début 2019 sur la question justement de la transformation des places d'urgence en place pour personnes insérables et la mobilisation du 28 novembre où on a eu beaucoup de monde, c'est qu'en termes de message, ça n'a rien à voir. En fait, au début de l'année 2019, on expliquait que les places étaient en train de glisser entre les personnes qui n'avaient aucun titre de séjour et les personnes qui étaient insérables, mais qu'en même temps, ce n'était pas clair, c'était écrit nulle part, c'est des choses dont on s'était rendu compte. Par contre, le 28 novembre, on a dit qu'il y avait des enfants qui allaient fêter leur 1 an et qui allaient être remis à la rue. Et je veux dire, là, le message est quand même beaucoup plus clair et je pense que ça a fait toute la différence aussi sur le fait qu'on soit vraiment visible le 28 novembre et qu'on réussisse à gagner.
Ça veut dire qu'actuellement, des personnes sans droit ni titre, comme tu dis, peuvent être hébergées dans des dispositifs d'hébergement d'urgence ?
Oui, c'est possible. C'est-à-dire qu'elles y ont droit. Après, c'est plus en termes de moyens là, que la question se pose. C'est-à-dire que pour l'instant, il y a le parc de l'hébergement d'urgence qui existe depuis plus d'une dizaine d'années, où là, il y a des personnes qui sont rentrées en hébergement pérenne et qui y sont encore, ou voilà, en tout cas ça représente quelques places. Donc il y a encore des personnes qui arrivent à rentrer dans l'hébergement, dans un hébergement stable, dans un vrai centre d'hébergement, et à rester aussi longtemps que nécessaire. C'est souvent à peu près 5 ans le temps d'une régularisation à la préfecture. Mais ça représente très peu. La majorité des places pour les personnes qui n'ont pas droit au logement en France, au logement en France, mais du coup à Lyon, ces personnes-là, elles vont être sur des hébergements de plan froid qui sont ensuite pérennisés. Toute l'année, il y a les centres d'hébergement et de réinsertion sociale, les CHRS, qui accueillent des personnes en insertion. Donc, c'est-à-dire des personnes qui sont de passage et qui ensuite vont rentrer en logement, alors quel que soit le type de logement, ça dépend des personnes. Donc ça, c'est dans l'idée que les personnes sont européennes ou françaises, et l'idée, c'est de se réinsérer donc par l'emploi, par le logement. Voilà. Ça, c'est les foyers classiques. Et après, toute l'année aussi, il y a des centres d'hébergement d'urgence qui accueillent de façon pérenne des personnes sans droit ni titre, avec dans l'idée de les aider à se régulariser auprès de la préfecture et donc à obtenir un titre de séjour, puis un travail, un logement, et pouvoir quitter l'hébergement sereinement. Ça, c'est toute l'année. Okay. Après, tous les ans, il y a un plan froid qui est lancé avec des ouvertures de places en urgence sur des bâtiments vides, donc dans des conditions assez précaires. Voilà, avec surtout du collectif, et dans des bâtiments qui vont être détruits ou qui ne servent pas, donc plutôt des bâtiments vieux.
Et ces personnes-là, elles sont remises à la rue à la fin du plan 3.
Ça dépend des années. Là, ça fait... Enfin, cette année, les personnes ont été... n'ont pas été remises à la rue parce qu'il y avait le Covid. Il y a eu l'ouverture des places plan froid, les personnes sont rentrées. Ensuite, il y a eu l'ouverture des places Covid où de nouvelles personnes sont rentrées et aucune de ces personnes-là a été remise à la rue. Voilà, donc cette année, en tout cas, il n'y a pas de remise à la rue. Ça fait quand même qu'on pérennise des habitats très précaires. C'est-à-dire qu'on ouvre la ligue de foot, voilà, un ancien bâtiment, ce qui est censé faire l'hiver, et puis ça continue, on ne remet pas les personnes à la rue, mais on les laisse dans un bâtiment quand même pas très adapté, et sans qu'elles sachent vraiment s'il y aura une remise à la rue ou pas. Voilà, c'est toujours de briques et de broc, et à la fin, ça donne que les seules places pour les personnes sans droit ni titre, ça va être dans ces hébergements bancals.
Cette année, c'est un nouveau plan 3 qui a commencé, je crois, à la mi-octobre. Est-ce que, du coup, c'est encore une augmentation de ces logements précaires et toujours avec cette idée de non-remise à la rue en mars prochain ?
Alors, sur la non-remise à la rue, on peut pas s'engager. Sur la précarité, ben, on attend encore un peu de savoir où seront les bâtiments. Il y a eu l'annonce que le plan froid a été avancé. Donc, plutôt que le 1er novembre, c'était le 18 octobre. Le temps que tout se fasse, le truc qui a pu se faire le plus rapidement, ça a été de faire commencer les équipes de nuit du SAMU social à Linéa, mais... Pour le reste, on a attendu un petit peu, quoi. Voilà.
Est-ce que le collectif Hébergement en danger est toujours actif ?
Alors nous, oui, depuis Depuis le mois de mars, c'est vrai que c'est un peu plus compliqué, forcément avec la question de la non-possibilité de se rassembler, puis après avec les congés d'été. Pendant le confinement, on a tenté de faire un peu groupe, déjà pour nous se soutenir entre travailleurs sociaux bien dépassés, et puis pour essayer de dénoncer un peu ce qu'il pouvait y avoir de compliqué dans l'accueil des personnes sans abri, leur accompagnement dehors, leur accueil en hébergement, enfin voilà tout. Et là, on essaye pas mal d'être présent sur la coordination nationale du travail social en lutte, qui regroupe alors là, pour le coup, toutes les branches du travail social, donc du handicap à l'enfance, à la prévention spécialisée, à l'urgence sociale, qui serait plus notre branche. Mais ça permet de répondre à des appels nationaux de lutte, à aussi voir comment ça fonctionne ailleurs, à parler de ce qu'on fait, à sentir qu'on n'est pas les seuls aussi, à remettre en question parfois ce qui se passe sur nos lieux de travail. Donc ça fait un peu du bien. On s'était dit qu'on allait recontacter les squats, Jamais sans toi, tous ceux qui avaient été bien des soutiens. Et... avoir plein d'infos sur plein de centres d'hébergement qui ouvrent. On a annoncé 800 places, donc on va attendre de voir effectivement combien de lits existeront et combien de personnes iront de la rue sur des places d'hébergement. On a un Gmail qui est Collectif Hébergement d'Angers, tout attaché. Sans accent, @gmail.com.
Est-ce qu'il faut être travailleur ou travailleuse sociale pour vous rejoindre ou n'importe qui peut vous écrire?
Alors, l'idée c'est que n'importe qui puisse nous contacter. Tous les sympathisants sont les bienvenus. Sachant que nous, c'est vrai qu'on est un noyau dur de travailleurs sociaux, mais l'idée c'est justement de s'ouvrir à toutes les formes d'aide pour toutes les formes de mise à l'abri. Donc, je pense surtout au squat quand je dis ça, mais y a sûrement plein de choses que je connais pas. Allez-y.
Il y a bien une chose que la crise sanitaire n'aura pas mise à l'arrêt, c'est la folie répressive qui s'est emparée de nos gouvernements. Avec sa proposition de loi relative à la sécurité globale, La majorité présidentielle se propose ni plus ni moins de pénaliser le seul fait de diffuser des vidéos dans lesquelles des policiers ou des gendarmes seraient identifiables. Autrement dit, demain, le seul fait de sortir son téléphone portable devant un policier sera passible d'une peine d'un an d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende.
Alors que l'état de droit recule chaque jour un peu plus, cette semaine, c'était la loi dite de sécurité globale qui était débattue à l'Assemblée nationale. Cette proposition de loi donnera le droit aux forces de l'ordre de surveiller sans être vues. Ce mardi 17 novembre, ce sont des milliers de personnes qui sont mobilisées, malgré le confinement et la répression policière, pour dénoncer cette offensive sécuritaire.
L'aveu même du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, cette loi correspond à une promesse tenue au syndicat de police.
En France, ces mobilisations ont permis de rappeler que ces violences sont bel et bien présentes dans notre pays. On pense à Zia Debouna, à Théo, à Adama Traoré, à Mehdi, etc. Tous victimes d'une police violente, raciste et décomplexée.
Pas notre droit de manifester en toute sécurité, de nous réunir, de nous exprimer.
Bien évidemment que les luttes pour la démocratie sont intrinsèquement liées aux luttes antifascistes. Et il est bon de rappeler que ce gouvernement et tous ces gens vont encore nous faire la même sauce en 2022. Ils vont à nouveau se présenter comme les ennemis du Front National, comme le rempart face à l'extrême droite. Mais qu'est-ce qu'il y a en train de faire actuellement le gouvernement, à part servir sur un plateau toutes les armes légales pour l'extrême droite, lorsque Marine Le Pen sera au pouvoir?
Donc on est où, Tib, là?
Eh ben là, on est presque au niveau de la préfecture. On est à la préfecture et parce qu'il y a une manifestation, un rassemblement qui est appelé à 18h. Il y a au moins une dizaine de fourgons de CRS.
Il y en a un avec un FAMAS devant nous. Il n'est pas flouté.
C'est vrai.
Ah, il y a du monde.
Énormément de monde.
Il y a énormément de monde.
Il y a beaucoup de monde. Je pensais pas qu'il y aurait autant de monde.
Genre vraiment beaucoup de monde.
Ça fait du bien, non? Il y a plein de monde dans la rue, ça vit. En plus, c'est pour quelque chose d'important, donc ça fait vraiment plaisir. Je pensais qu'on serait pas nombreux et en fait, on est plein à sentir que c'est un moment important, qu'il faut être là, quoi.
D'ailleurs, le confinement, faut pas l'appeler confinement parce que c'en est pas un. Alors c'est bien qu'on puisse quand même manifester. C'est bien que les gens y sortent un peu.
T'es venu avec une attestation de manif ici?
Ouais, je l'ai rempli avec Instagram. Et on m'a envoyé l'attestation. Je l'ai rempli comme je remplis une story Instagram. Ouais, ça fait bizarre.
Vous êtes venu pourquoi vous ici?
Bah contre ce projet de loi absolument affreux quoi, de tous les pouvoirs à la police. Enfin c'est vraiment l'impunité totale quoi.
Moi ce que j'ai retenu de la loi c'est l'interdiction de filmer les policiers en exercice. En tout cas de la diffusion. Mais ce qui va résulter vers une interdiction du fait de filmer. On sait très bien qu'ils vont nous dire oui. T'es en train de me filmer en direct, t'es déjà en train de me diffuser sur les réseaux sociaux, donc ils pourront entre guillemets éclater tous les téléphones qui passent avec cette justification là quoi.
De toute façon toutes les lois qui sont faites pour la sécurité n'emmerderont jamais un terroriste mais toujours les citoyens lambda ou un manifestant parce que notamment on les dérange depuis 2 ans. Ben moi je suis gilet jaune, je lutte notamment contre la loi globale sécurité qui est une atteinte à nos libertés fondamentales et ça fait jour pour jour 2 ans que le mouvement est né. C'est important, c'est un mouvement spontané et les gens étaient même pas là pour changer tout au départ, ils voulaient juste qu'on les écoute. Et cette loi, ben, du coup on pourra jamais prouver qu'il y a eu une bavure ou quoi que ce soit parce que de toute façon tu peux pas les filmer, tu peux rien faire. Donc en même temps ils auront quartier libre. Et moi ça m'embête si ceux qui sont censés respecter la loi sont au-dessus des lois. Là ça prouve qu'on a un réel problème dans notre république.
J'ai l'impression que notre pays il est en train de déraper un petit peu, tu vois. Ils veulent nous mater, quoi, on a l'impression, en tout cas. Toujours plus de lois sécuritaires. Et Franchement, voir du monde comme ça, mobilisé, surtout par le temps qui court, c'est sûr que ça fait chaud au cœur, c'est important en tout cas.
Quelles sont à ton avis nos capacités d'action là-dessus?
Peut-être pas grand-chose, faut prier pour que nos députés ils soient pas tous à la botte de Macron. C'est ça.
Donc ça gaz.
La lacrymogène, c'est pas indiqué en période de Covid.
Entre le pont Wilson et le pont Lafayette, c'est plus de 2000 personnes qui sont finalement retrouvées. C'était vraiment impressionnant. On était comme déjà nassés, des grilles anti-émeutes le long de chaque rue autour de la préfecture. Mais aussi une ambiance de fête, la joie des retrouvailles, le sentiment palpable que ça suffit, que ça ne peut pas aller plus loin. Que les attaques antidémocratiques et liberticides doivent cesser. Que cette loi qui renforce les pouvoirs de surveillance et de répression de la police, tout en rendant passible de prison la diffusion de l'image d'un agent de police par la presse, ne doit pas passer.
Et voilà, il y a un dernier point aussi sur la surveillance généralisée qui va permettre cette loi, avec notamment l'utilisation massive de drones, et de permettre de transmettre en temps direct les images télévisées dans les commissariats, qui permettrait d'utiliser des techniques de reconnaissance faciale des manifestants, et ce qui va permettre potentiellement un harcèlement ciblé des manifestants qui sont déjà connus de la police et qui seront systématiquement contrôlés, arrêtés, mis en garde à vue de façon abusive.
Parmi les articles discutés cette semaine à l'Assemblée, l'article 21 concerne les caméras portables, qui, selon les rapporteurs du texte, devraient équiper toutes les patrouilles de police et de gendarmerie dès juillet 21. S'il est voté, le texte autorisera donc la transmission des flux vidéo au centre de commandement en temps réel. Cela permettra l'analyse automatisée des images, et notamment la reconnaissance faciale des manifestantes et des manifestants, et des passants et des passantes, en lien avec les 8 millions de visages déjà enregistrés par la police dans ces divers fichiers.
Sans la possibilité de diffuser les images des policiers en intervention, plus aucune victime ne sera en mesure de déclencher la moindre procédure judiciaire pour faire valoir ses droits. Sont ainsi directement menacés notre droit à l'information, aussi le droit de la défense, et par extension, notre droit de manifester, de se rassembler, notre liberté d'opinion, bref, ce qu'on appelle encore naïvement nos libertés publiques.
Santé sociale à l'hôpital Édouard Herriot. Alors, moi je suis là ce soir pour les hospitaliers, pour alerter sur la souffrance qu'elle est en train d'endurer. Voilà, je pense que c'est vachement important. Alors, j'ai amené ça parce que ça fait des années qu'on l'a. Tais-toi et bosse. On est sorti en manif pour contester le fait qu'ils sont en train de zigouiller l'hôpital public. Aujourd'hui, avec cette loi liberticide, ça va être vachement plus compliqué pour nous. Et vraiment, dans nos hostos, là aujourd'hui, on était avec un délégué CHSCT qu'on a empêché de rentrer dans un service. Parce que c'est dramatique ce qui se passe aujourd'hui à l'hôpital. Il n'y a pas de lit, il n'y a pas de masque, il n'y a pas de blouse, et il n'y a plus de soignants. C'est des élèves infirmiers qui prennent le relais. Donc on essaie un petit peu de faire alerter la population parce qu'il s'agit de vous, il s'agit de nous, il s'agit de tout le monde. Ce qui se passe dans les EHPAD, pour moi, c'est vraiment un crime d'État. On laisse crever les gens sans aucun matériel, sans aucun personnel. Ça fait des années qu'on alerte. Aujourd'hui, on veut nous empêcher d'alerter, mais c'est grave, quoi. Faut arrêter maintenant. Moi, mes parents, quand ils sont arrivés en France, parce que je suis d'origine étrangère, eh ben, j'ai eu une discussion avec eux hier, ils m'ont dit, mais c'était nous avant. Quand ils sont arrivés, il y avait un vrai système social. On était accueillis correctement. Aujourd'hui, qu'on soit noir, blanc, vieux, jeune, on est traité comme des chiens. Et je suis désolée, mais la santé, c'est un droit. Et aujourd'hui...
On a vécu aussi une répression policière, notamment à Vendelin, parce que nous sommes à Vendelin, mais ça se passe aussi dans d'autres quartiers, où il y a des drones tous les matins qui passent, des drones militaires qui passent sur Vendelin. Nous, on a noté toutes les heures, mais bon, on n'a pas que ça à faire, mais on a noté en tout cas les heures de passage de ces drones qui passent le matin et qui reviennent l'après-midi, qui atterrissent à la hauteur de Brun. Ça, c'est vraiment une volonté de surveillance des quartiers populaires, de la ville de Lyon et d'autres villes en général, faire en sorte que ce qui se prépare, c'est, je pense qu'on est en dessous encore de la vérité. Et je pense que si on nous avait dit il y a 6 mois seulement ce qui allait se passer aujourd'hui, on aurait dit mais c'est pas vrai. Là, on est vraiment dans la science-fiction. Mais je pense qu'on est seulement à la moitié du bien. Quoi. On n'a pas traversé encore la totalité de ce qui peut encore arriver à la population aujourd'hui. Je pense que l'urgence, c'est que toutes les organisations des quartiers et toutes les organisations politiques ou non politiques soient unies aujourd'hui.
On veut pouvoir se défendre contre les abus de pouvoir de la police nationale et de la gendarmerie quand ils existent. C'est notre intérêt, c'est le sien et c'est celui de toute la société. Merci à tous et toutes.
L'article 22 autoriserait la surveillance par drone qui, selon le Conseil d'État, est actuellement interdite. Ici encore, la police n'a produit aucun argument démontrant qu'une telle surveillance protégerait la population. Au contraire, nous avons pu constater en manifestation que les drones sont avant tout utilisés pour diriger des stratégies violentes, contraires à la liberté de manifester. Massage, gaz et grenades lacrymogènes.
Nous continuerons à demander justice pour Adama Traoré, à demander justice pour Théo, à demander justice pour Geneviève Le Guay, à demander justice pour Arthur, pour Cédric Chouviat, pour Juliette Bregoen, pour Steve Bayakanisso et pour tous ces et ceux qui aussi sont tombés sous le coup de la police.
L'article 24 vise à empêcher la population et les journalistes de diffuser des images, du visage ou de tout autre élément d'identification de fonctionnaires de police ou militaires de gendarmerie.
Aujourd'hui, on est à peu près 2500. On vous appelle, il y a eu des rassemblements en France aujourd'hui, à Paris, à Marseille, à Chalon-sur-Saône, au Mans, à Rennes, Nice, Bordeaux, Toulouse, Nantes, Grenoble, Valence, Villefranche-sur-Saône, Aix-en-Provence, Les Ulis, Saint-Avold, Troyes, Saint-Nazaire, Colmar, Strasbourg. Et dans les jours qui viennent, Le Havre, Périgueux, Dunkerque, Lille et Chambéry hier.
En clair, le déploiement massif des caméras mobiles et des drones, couplé aux caméras fixes déjà existantes, entraînerait une capacité de surveillance généralisée de l'espace public, ne laissant plus aucune place à l'anonymat essentiel au respect du droit à la vie privée et ne pouvant avoir qu'un effet coercitif sur la liberté d'expression et de manifestation.
Jusqu'au retrait de la loi, on demande le retrait de cette loi. Elle va passer. La loi doit passer à l'Assemblée nationale le 24 novembre. On vous appelle tous et toutes à être là à nouveau le 24 novembre pour protester contre l'adoption de cette loi.
Je ne céderai rien, ni aux fainéants, ni aux cyniques, ni aux extrêmes.
Il y a, d'un côté, un nouveau totalitarisme, et c'est nous.
C'est pourquoi j'ai décidé qu'en novembre prochain, nous sortirons de l'état de droit.
Meurtre à Cholet pour punir les non-croyants. Et ceci n'est pas un attentat terroriste barbare, selon les journalistes. Samedi 14 novembre, Cholet a été le théâtre d'un double meurtre que l'ensemble des médias n'a pas qualifié d'attentat terroriste, alors que le principal suspect a revendiqué le motif religieux de son acte. Pourquoi un tel traitement médiatique et une absence de réaction politique ? On se rappelle, jeudi 29 octobre, un individu armé d'un couteau a assassiné trois personnes à l'intérieur et aux alentours de la basilique Notre-Dame de l'Assomption à Nice. Neutralisé par balles, son acte a été immédiatement qualifié d'attentat terroriste islamiste. Pourquoi ? Parce qu'il aurait crié à plusieurs reprises à la Wakbar. L'événement fait le tour des chaînes et des journaux du pays en quelques minutes et l'ensemble de la classe politique s'exprime. Le Premier ministre qualifie aussi cet acte aussi lâche que barbare qui endeuille le pays tout entier, et le président a déclaré que c'était toute la France qui était attaquée. En quelques heures, le nom du suspect était connu de tout le monde et celui des victimes également. La photo du suspect a même été diffusée sans complexe par l'AFP dans la semaine qui a suivi.
Et deux semaines plus tard, à Cholet, dans le Maine-et-Loire, une petite ville, un individu d'une trentaine d'années descend dans la rue et, dit-il, guidé par Dieu, pour agir. Il tue un homme et blesse grièvement son épouse. Revenu chez lui, il aurait à nouveau été contacté par Dieu et de retour dans la rue, il fait une troisième victime. Bilan, deux morts. La couverture médiatique, elle, est nettement plus faible que pour l'attentat de Nice. En presse nationale, il n'y a que quelques journaux qui en parlent. Et ce sont principalement les médias régionaux qui saisissent de l'affaire, tels que Nice Matin, Ouest France, Midi Libre, La Dépêche, etc., etc. Et assez vite, l'actualité est relonguée au second plan. La question qu'on se pose, c'est pourquoi un tel écart d'interprétation médiatique entre deux événements qui nous apparaissent comme similaires. À Nice, on apprend le nom du suspect, celui des victimes, et puis un emballement médiatique important qui utilise des mots tout à fait liés à l'émotion, comme barbarie, drame, horreur, terreur. À Cholet, le nom du suspect reste inconnu, celui des victimes également, et les articles décrivent les faits de façon très factuelle, quasi clinique. Une agression ayant entraîné la mort de. Le lien entre le décès des victimes et les agressions est atténué. Comme si les journalistes, et c'est tout à leur honneur, essayaient de tirer des conclusions trop hâtives. Mais la question est, pourquoi ils ne font pas la même chose quand ça se passe à Nice? Le Courrier de l'Est, qui était le journal qui a suivi le plus l'affaire, explique que l'usage de terme « attentat » est correct, mais que le qualificatif de terroriste ne l'est pas. Et pourquoi? Parce que selon le Courrier de l'Est, de l'Ouest, selon le Courrier de l'Ouest du coup, l'acte ne repose pas sur un projet politique global porté par d'autres. Pourtant, au moment où cette mise au point est publiée, le lendemain de l'attentat de Cholet, on ne sait toujours pas quelles sont les motivations réelles du suspect et s'il a été commis avec des complices. Et ce qu'on sait juste, c'est que le suspect a été guidé par Dieu. Et c'est le procureur Éric Bouillard qui va dire « Cela fait partie des investigations de savoir si on a affaire à quelqu'un de pratiquant qui appartenait à des groupes particuliers. » Et donc ça, c'est pas du tout la question qu'on se pose quand c'est le cas de ce qu'on appelle un attentat terroriste. Du coup, un attentat terroriste, ça veut dire, selon les journalistes et selon les politiques, un attentat qui est commis par une personne dont la religion est la religion musulmane. Et si c'est la religion catholique, et ben il semblerait que pour beaucoup de journalistes, et ben voilà, on ne sait pas si vraiment il faisait partie d'un groupe, on ne sait pas s'il y avait un projet politique derrière et compagnie. Et du coup, le rédacteur en chef du Courrier de l'Ouest finit même par admettre, si on avait eu un musulman, est-ce qu'on aurait agi pareil? Honnêtement, je ne pense pas. Derrière l'information, du coup, ce qu'on appelle l'information, nous avons donc des préjugés assumés par les rédactions qui les conduisent à un traitement radicalement différent des actes de violence selon la religion ou la confession de leurs auteurs. C'est vraiment la question du racisme d'État qui est là, et c'est vraiment la question de comment les pouvoir public amène les journalistes à utiliser des mots ou d'autres. En attendant, les morts de Cholet et leurs familles, loin de l'habituelle empathie nationale pour les victimes de terrorisme, sont écartés de notre mémoire collective par un traitement médiatique pétri de préjugés et surtout de racisme, et bien entendu en parfaite symbiose avec une communication politique qui choisit toujours de dénoncer la violence qu'elle peut instrumentaliser, la violence qui l'arrange, la violence qui vient servir le racisme d'État.
Sans papier.
Migration.
Frontières.
Expulsion.
Centre de rétention.
Frontex.
Asile.
Réfugiés.
Racisme.
Clandestins.
Europe forteresse.
Répression.
Calais.
OQTF. No border, no nation, stop the protection. Solidarité, most bad de stade. No nation, no border, fight law and order. Fire, famine, no border.
En pleine crise sanitaire et sociale, le gouvernement publie un nouveau décret réduisant l'accès à la protection maladie des personnes étrangères. Début 2020, une série de mesures visant à restreindre l'accès aux soins des personnes étrangères avait été introduite. Parmi celles-ci, il y avait notamment l'augmentation des délais avant de pouvoir faire une demande d'aide médicale d'État ou de complémentaire santé solidaire. Le décret du 30 octobre 2020, qui a donc été publié le lendemain du deuxième confinement, vient aggraver la situation. Ce décret avait été annoncé il y a plusieurs mois, mais la première vague de Covid avait contraint le gouvernement à le mettre en suspens. La deuxième vague, pourtant plus forte et plus grave comme on nous dit tous les jours dans les médias, n'aura pas eu le même effet. Le décret prévoit deux dispositions principales. La première concerne les personnes étrangères affiliées à l'assurance maladie et qui perdent leurs droits au séjour. Jusqu'en 2019, les droits à l'assurance maladie et à la complémentaire santé solidaire étaient prolongés automatiquement de 12 mois après la fin du droit au séjour d'une personne. c'est-à-dire après la fin de son titre de séjour qui n'était pas renouvelé, par exemple. Le délai de prolongation des droits permettait avant tout de pallier aux carences des préfectures qui délivraient très tardivement les documents permettant de justifier de la régularité de séjour et éviter les ruptures de droits. Depuis janvier 2020, ce délai de prolongation des droits est passé de 12 à 6 mois. Avec le décret du 30 octobre 2020, la situation se complique. La prolongation des droits est désormais limitée à 2 mois seulement pour une personne ayant reçu une mesure d'éloignement définitive. Traduction. Une mesure d'éloignement est par exemple une OQTF. Et définitive, ça veut dire qu'il n'y a pas de recours qui pourrait porter à l'annulation de cette décision. En gros, cela crée deux traitements différents des assurés sociaux dont le titre de séjour n'est pas renouvelé. Les personnes qui perdent leur droit au séjour mais qui n'ont pas d'OQTF ou bien qui reçoivent une OQTF mais qui font un recours, et bien leurs droits d'assurance maladie et à la complémentaire santé solidaire sont maintenus 6 mois. Par contre, les personnes qui ont une OQTF et qui ne l'ont pas contestée, les droits à l'assurance maladie sont maintenus de 2 mois seulement. Bon, vous avez rien compris ? Et bien c'est normal. L'un des effets de cette mesure est de complexifier les règles qui permettent de déterminer les droits d'une personne. Cela devient incompréhensible, notamment si on ne parle pas très bien français ou si on ne maîtrise pas les règles du droit au séjour. On se demande si les CPAM même vont s'y retrouver. La notion de mesure d'éloignement définitive est floue et pourra être interprétée de manière différente selon les départements. Il faudra donc une vigilance accrue pour garantir le respect des droits de chacun et chacune. De plus, la date d'échéance qui figure actuellement sur les attestations de l'assurance maladie ne pourra plus du tout garantir que la personne a des droits ouverts à l'assurance maladie. La deuxième mesure prévue par le décret concerne les personnes qui font une demande d'aide médicale d'État pour la première fois. Alors, pour rappel, l'aide médicale d'État est prévue pour les personnes qui n'ont pas de droit au séjour et qui ne dépassent pas un certain plafond de ressources. Alors, avec ce nouveau décret, pendant les 9 premiers mois de la première affiliation à l'aide médicale d'État, certains soins seront exclus du panier des soins qui étaient pris en charge auparavant par l'AME. Parmi ceux-ci, par exemple, l'opération de la cataracte, la pose de prothèse du genou, de la hanche, de l'épaule. Le décret confirme aussi que toute première demande d'aide médicale d'État devra désormais être déposée en personne par le demandeur ou par une autre personne majeure du foyer auprès de l'organisme d'assurance maladie de son lieu de résidence. Qu'est-ce qui fait qu'un pays en crise sanitaire décide de limiter l'accès aux soins d'une partie de sa population ? C'est peut-être que pour Macron et son gouvernement, la lutte contre la fraude est une question de principe et le fantasme du tourisme médical toujours bien présent, peu importe que les frontières soient plus fermées que jamais. Pourtant, aucune étude montre qu'il y ait une fraude particulière de la part des personnes étrangères vis-à-vis de l'assurance maladie et de l'aide médicale d'État. Au contraire, l'enquête Premier Pas de l'Institut de recherche et documentation en économie de la santé, démontre que 50% des usagers et usagères éligibles à l'aide médicale d'État n'en bénéficient pas. On peut imaginer que le renoncement aux droits va augmenter avec la mise en place des nouvelles mesures. Les associations impliquées en première ligne dans la lutte pour l'accès aux droits et aux soins des personnes étrangères tirent la sonnette d'alarme depuis plusieurs mois. Elles dénoncent un non-sens en termes de santé publique. Selon elle, ces durcissements successifs sont pris alors même que toutes les études montrent que les personnes étrangères font d'ores et déjà face à des obstacles importants pour accéder aux droits et aux soins et sont plus exposées aux risques de santé. Dans un communiqué, elle demande la sécurisation du parcours de soins des personnes étrangères, le retour au mécanisme du maintien de droits de 12 mois à l'assurance maladie, la suppression des obstacles à la demande d'aide médicale d'État, telle que l'obligation du dépôt en personne.
Je vais vous lire une lettre ouverte qui a été rédigée par la communauté érythréenne le 16 novembre à Calais. Cette lettre a été adressée au préfet de région pour dénoncer les actes dont cette communauté est victime et pour dénoncer en général la violence de la police à l'encontre des exilés de Calais. À qui de droit ? Tout d'abord, nous tenons à remercier les Français et les Françaises pour leur hospitalité et aussi pour leur gentillesse. Nous sommes la communauté érythréenne vivant à Calais près de l'aire de jeu BMX. Notre communauté habite ici depuis plusieurs années. Ici, il y a beaucoup d'histoires difficiles à digérer, qui sont gardées sous silence, même lorsqu'on essaye de les diffuser. Nous demandons qu'une solution rapide de nos problèmes. Laissez-moi vous raconter une partie de notre histoire. Le peuple érythréen a vu tant de choses horribles sur son chemin, et l'histoire se répète encore. Ma commune, notée, est ici parce que c'est la seule option qu'elle a. Certains d'entre eux ont une empreinte digitale en Italie, sans leur consentement. D'autres ont été emmenés ou transférés dans d'autres pays européens comme l'Allemagne et la Suisse, où malheureusement ils et elles ont été rejetés. Ce qui nous rend malade, c'est que la plupart d'entre eux et elles ont attendu 5 ou 6 ans pour que leur demande soit examinée. Et ce qui est terrible, c'est qu'ils et elles finissent par avoir une réponse négative, alors que cette attente leur a causé une grande angoisse. Malgré nos grandes attentes, des pays démocratiques européens ont été déçus et ont un peu brisé notre esprit de combat. Nous sommes quand même rendus compte que l'abandon de notre objectif n'est pas une option pour nous. Nos objectifs n'ont pas encore été réalisés depuis que nous sommes partis de chez nous. En ce moment, nous nous trouvons à Calais. Notre seule intention est d'atteindre le Royaume-Uni par tout moyen. Ici, certaines personnes, y compris les organisations humanitaires, nous aident avec nos besoins de base. À part ces personnes, certaines autres, comme les CRS, font de nos vies un enfer. Parfois, ils nous suivent partout, comme si nous étions des espions ou des criminels avec des casiers judiciaires. Certains membres des CRS font des choses terribles à notre communauté. Nous avons vu les membres des CRS gazer notre peuple avec des agents chimiques alors qu'ils tentaient de rentrer au lieu de vie. De nombreux membres de nos communautés en sont victimes. Les CRS agissent parfois au-dessus de la loi. Un pays démocratique ne peut pas être considéré comme tel s'il utilise la force physique de cette manière. Et cela ne le rend pas civilisé, ne rend pas l'exercice de leurs fonctions plus acceptable. La dernière fois, ils ont frappé un de nos amis alors qu'il essayait de rentrer. Ce n'est pas juste de frapper quelqu'un sans motif, juste parce qu'il rentre chez lui. Le 5 novembre 2020, sans préavis, ils sont venus dans notre lieu de vie et nous ont empêchés de sortir toute la journée. Puis, vers 21h40, ils sont venus vers nos tentes et ont gazé toutes nos affaires personnelles, puis nous ont frappés comme si nous étions des animaux, pas des êtres humains. Le lendemain matin, ils nous attendaient autour de Sangatte. Ils nous ont frappés et nous ont fait retourner sur nos pas en nous gazant. À des moments différents, ils causent de petits et grands dommages et cela continue. Même quand nous marchons, ils ouvrent leur voiture et nous gazent, juste pour s'amuser. Chacun a le droit d'aller où bon lui semble et à tout moment. Ces personnes qu'ils appellent CRS nous chassent en dehors de la zone Carrefour et nous empêchent de faire les courses. Pour eux, voir des Érythréens s'amuser ensemble les remplissent de colère et les rendent d'autant plus violents. Comme tous les clients, nous avons le droit d'acheter ce que nous voulons et nous avons aussi le droit de nous amuser comme nous voulons. Les agissements des CRS sont honteux. Ces personnes ont dépassé les limites. Pendant que nous dormions, certains membres des CRS ont essayé de nous chasser avec force. Une fois installés, ils nous gazent. Gazer des personnes qui dorment est bien au-delà de l'imaginable. Dans ces cas-là, en tant que communauté, nous avons le droit de nous défendre.
Le 11 novembre, certains de nos frères provenaient du port et d'autres de la ville vers l'endroit où nous vivons, connu comme BMX. Nos frères ont été bloqués dans la zone du pont par des membres de CRS qui ne voulaient pas les laisser passer pour atteindre l'endroit. Il y avait environ 6 voitures et 40 personnes. Nous avons vu que les agents CRS étaient contre eux. Alors, nous avons couru pour rejoindre nos frères et nous avons pu les rejoindre. Les agents ne pouvaient pas nous supporter parce que nous protégions nos frères. Selon les informations que j'ai recueillies et vues de mes propres yeux, 6 personnes ont été blessées. L'une des victimes est un homme qui a été gravement blessé. Il a perdu beaucoup de sang. Selon nos sources, notre homme a reçu une balle dans la tête à bout portant. Finalement, les choses se sont calmées, même si les agents de la CRS étaient prêts à nous frapper à nouveau. Nous avons essayé de résister, ne bougeant pas de notre endroit pour pouvoir défendre notre lieu de vie. Nous nous attendions à ce qu'ils frappent à tout moment, car ils avaient frappé notre frère à bout portant. À ce moment-là, nous avons décidé de parler et de demander de l'aide. Légalement, chaque citoyen a le droit de se défendre et de défendre les personnes qu'il aime, ce qu'on appelle la légitime défense. Tout ce dont nous avons besoin est d'informer ceux qui peuvent être concernés par cela. Dans ce pays de liberté et de démocratie, nos droits de l'homme doivent être respectés. Sinon, nous nous défendrons et notre lieu de vie par tous les moyens. Nous savons que la police travaille pour la sécurité des personnes. Nous, les Érythréens, respectons la loi. Nous sommes heureux de les aider et de faire ce qu'ils nous demandent légalement. Si quelqu'un nous dit que nous faisons des choses illégales, qu'il présente ses preuves de la bonne manière. Nous demandons donc de l'aide pour que les CRS arrêtent tout ce qu'ils nous font. En tant que communauté, nous voulons simplement informer de ce qui nous arrive. Nous aurions pu aller au tribunal pour un procès, mais nous n'avons pas les papiers de séjour pour défendre notre cause. Tout ce que nous voulons, c'est la justice. Tout ce que nous demandons, c'est la justice et l'aide de la société. Dans une cour de justice, nous sommes tous égaux et nous attendons que les autorités nous rendent justice afin que notre peuple puisse vivre en paix comme tout le monde.
Et on fait quoi maintenant ? devine. Mon premier est une personne qui n'a pas mangé. Mon second est, oui, en russe. Et mon tout est un outil permettant d'associer des actions et des moments et d'organiser ainsi son temps. C'est...
L'agenda !
Alors, malgré le confinement, on vous propose un petit agenda. On vous rappelle qu'il y a toujours des collectes solidaires à la Plume Noire. Donc, ça se passe les mercredis et les samedis. Les collectes ont lieu de 14h à 19h. Donc, l'adresse est le 8 rue d'Hydro, 69001 Lyon. Voici ce que vous pouvez apporter lors des collectes. Des denrées alimentaires non périssables, des légumes, du pain, etc. Des produits de première nécessité, comme des produits d'hygiène, des médicaments. Ensuite... Vous savez sans doute que le 25 novembre, c'est la journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes. Donc, il y aura plusieurs rassemblements et manifestations parce qu'on est confiné, mais on peut quand même aller manifester. Du coup, allons-y. Demain, samedi 21 novembre, à 15h, il y a un rassemblement à Place Bellecour. Il y aura le happening des femmes en blanc de l'association Filaction. Et ensuite, le 25 novembre, le mercredi, il y a un rassemblement à 18h30 devant le McDonald's de Charpennes pour dénoncer le harcèlement sexuel et le sexisme au travail et pour inciter le gouvernement à ratifier la convention 190 de l'Organisation internationale du travail permettant de protéger toutes les femmes du monde contre les violences sexistes et sexuelles sur leur lieu de travail. Ces rassemblements se dérouleront dans le respect des gestes barrières, donc venez masqués et avec du violet. N'oubliez pas de prendre avec vous l'attestation de déplacement dérogatoire que vous pouvez télécharger déjà pré-rempli sur le site de Rébellion.
Bonjour, je m'appelle Mathieu. Qu'est-ce que ça veut dire, ACAB ?
Radio Canu. Canu Info du vendredi.
Cher Mathieu, aujourd'hui, c'est une journée spéciale. ACAB, aujourd'hui, veut dire accueillons les CRS avec des blettes. Pour ce soir, c'est fini. On vous laisse avec l'émission de Music Trad Noise Pollution.
In molti casi siamo noi a far promesse senza mantenerle mai, se non per calcolo, il fine è solo l'utile e il mezzo ogni possibile, la posta in gioco è massima, l'imperativo è vincere e non far partecipare nessun altro, nella logica del gioco la sola regola è essere scaltri, niente scrupoli o rispetto verso i propri simili, perché gli ultimi saranno gli ultimi se i primi sono irraggiungibili, sono tanti, arroganti coi più deboli e zerbini coi potenti, sono replicanti, sono tutti identici, guardali, stanno dietro a maschere e non li puoi distinguere, come lucertole s'arrampicano, e se poi perdono la coda la ricomprano, fanno quel che vogliono, si sappia in giro fanno, spendono, spandono e sono quel che hanno.
E sono intorno a me, ma non parlano con me, sono come me, ma si sentono.
Abitano in blister full optional con cani oltre i 120 decibel se nani manco fosse Disneyland. Vivono col timore di poter sembrare poveri, quelli che hanno stentano e tutto il resto invidiano, poi lo comprano. In costante escalation col vicino costruiscono, partono dal pratino e vanno fino in cielo. Ha più parabole sul tetto che San Marco nel Vangelo. E sono quelli che di sabato lavano automobili, che alla sera sfrecciano tra l'asfalto e i pargoli. Medi come i ceti cui appartengono, terra a terra come i missili cui assomigliano. Tiratissimi si infarinano, si alcolizzano e poi si impastano su un albero. Nasi bianchi come Fruit of the Loom che diventano più rossi di un livello di luna.
E sono intorno a me, ma non parlano con me, sono come me, ma si sentono meglio. Sono intorno a me, ma non parlano con me, sono come me, ma si sentono meglio.
Per sé, Dio per sé, mani che si stringono tra i banchi delle chiese alla domenica.